Chapitre 3. Les premières grandes découvertes. En 1854, Louis Pasteur part travailler à Lille avec toute sa famille. Sa femme, Marie, et ses trois enfants qui ont 1 an, 3 ans et 4 ans. Louis est à présent doyen de la faculté des sciences à Lille. C'est un poste important qui récompense son travail. Lille est une ville moderne qui vit à l'heure de la révolution industrielle. La révolution industrielle. La révolution industrielle commence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et finit au XXe siècle. Au XIXe siècle, elle est en plein développement. Pendant cette période, on assiste à la modernisation des pays, dont la France. L'industrie naît. Usines. Les moyens de transport progressent, chemin de fer, automobile, avion. L'agriculture se modernise. La science avance. L'aide à l'industrie. Pasteur veut que, sur le modèle allemand, la science aide l'industrie. Pour cela, il veut que les élèves observent, fassent des travaux pratiques, manipulent, découvrent la réalité. Il veut lier la recherche à l'industrie, les études à la réalité. Alors, il emmène les étudiants visiter des usines, des fonderies, des usines où on fond, liquéfie les métaux, des distilleries, des usines qui font de l'alcool. Et il leur dit « Regardez bien, c'est important pour vos recherches. » Il a peu de temps pour sa famille, mais il apprend à ses enfants à lire. Il travaille en effet beaucoup, par exemple sur les betteraves. Marie écrit à son beau-père. Louis est maintenant plongé, travaille sur les betteraves jusqu'au cou. Les betteraves sont des légumes de couleur rouge qu'on mange souvent en salade. On fabrique de l'alcool avec le sucre de betterave. Un jour, un industriel de Lille, M. Bigot-Tillois, va voir Pasteur. Il a un problème. Parfois, il a un très bon alcool dans une cuve et du vinaigre dans une autre cuve. Pourquoi ? Il ne comprend pas. Il demande de l'aide à Pasteur. Pasteur installe son laboratoire dans la distillerie. Il observe pendant des jours et comprend. La fermentation qui permet de transformer le sucre en alcool est l'œuvre de très petits êtres vivants, des micro-organismes. Des êtres vivants ? Crie l'industriel. Mais c'est impossible ! Il y a 2 micro-organismes. Quand je les mets dans un ballon de laboratoire, avec une solution sucrée, ils se multiplient. Ce sont donc des êtres vivants. Avec le jus de betterave, l'un produit de l'alcool, mais l'autre produit de l'acidité. Dans les bonnes cuves, le premier micro-organisme est en très grande quantité. Mais dans les mauvaises cuves, il y a trop de second micro-organisme qui a une forme de bâton. Et ces micro-organismes transforment le sucre en acide, en vinaigre. Mais d'où viennent ces petits êtres vivants ? Demande l'industriel. Je ne sais pas encore, répond Pasteur. Mais ils provoquent ou pas la fermentation. Pasteur pense qu'ils viennent de l'air. Il va, les années suivantes, montrer qu'il y a des germes dans l'air qui peuvent contaminer certaines choses. En octobre 1857, Pasteur et sa famille retournent à Paris. Pasteur devient administrateur de l'école normale supérieure et directeur des études scientifiques. C'est un très beau poste pour quelqu'un qui a 35 ans. Il installe son laboratoire sous les toits et travaille beaucoup, comme d'habitude. Tous les matins, il dit « Laboremus ». Son laboratoire est plein de ballons de laboratoire et de cahiers où il décrit et dessine ses expériences. C'est un peu l'Institut Pasteur qu'il va créer plus tard, avant l'heure. En 1858, sa fille, Marie-Louise, naît. Hélas, en 1859, sa fille Jeanne meurt à l'âge de 9 ans. Pasteur écrit « Elle vient d'aller au ciel prier pour nous ». La théorie de la génération spontanée. Triste, il travaille de plus en plus et continue ses recherches sur les générations spontanées. Pour la théorie de la génération spontanée, la vie peut naître de rien, sans parents. On pense, par exemple, que des asticots peuvent naître par magie sur du fromage et même des souris ou des mouches sur des organismes en décomposition. Pasteur ne croit pas à cette théorie et il va montrer que c'est faux. À Paris, il place un bouillon de culture dans un ballon stérilisé. Puis, il fait entrer de l'air dans le ballon et regarde. Le liquide change. Pourquoi ? Il y a des germes dans l'air qui sont entrés dans le ballon. L'air n'est pas pur. L'été 1860, Pasteur recommence l'expérience au Mont Poupet, dans le Jura, pas loin d'Arbois. Le liquide à l'intérieur du ballon change moins. L'air est plus pur qu'à Paris. Il recommence aussi l'expérience à la mer de glace, à Chamonix, un glacier dans les Alpes, une chaîne de montagnes. Le liquide est presque le même qu'au début. Il y a moins de germes qu'à Paris. L'air est plus pur en haut des montagnes, ce qui semble évident. En revanche, dans les ballons stériles où il n'a pas mis d'air, le liquide ne change pas. La vie n'apparaît donc pas d'elle-même. Ce sont des microbes qui sont partout, qui changent les choses. Mais des scientifiques ne croient toujours pas Pasteur. Alors, quelques années plus tard, Pasteur fait une nouvelle expérience à Arbois, où il a une parcelle de vigne. Dans 3 serres vitrées et fermées, il met des grappes de raisin pas mûres, vertes, dans des petits sacs en tissu stérile. À l'automne, on presse ce raisin, mais le jus ne fermente pas et ne devient pas du vin. C'est normal, car rien n'est entré dans le raisin. La fermentation est l'œuvre d'êtres vivants, les levures. Elles viennent de l'air. Si elles ne peuvent pas entrer, si l'air n'entre pas, rien n'arrive. Pasteur montre que la théorie de la génération spontanée est fausse. En 1862, Pasteur entre à l'Académie des sciences, où siègent de grands scientifiques, et Jean-Baptiste Dumas le présente à Napoléon III. En 1863, sa fille Camille naît. Hélas, elle va mourir 2 ans plus tard. Beaucoup d'enfants meurent très jeunes à l'époque. On ne sait pas guérir les maladies infantiles. Louis, pour oublier, travaille de plus en plus. La pasteurisation. La France, en 1850, a 2 millions d'hectares de vignes. Elle fabrique beaucoup de vin. Mais parfois, le vin est bon. Parfois, il n'est pas bon et tourne au vinaigre. Les vignerons ne maîtrisent pas bien la fermentation. C'est embêtant pour la fabrication du vin et la vente. En plus, l'empereur Napoléon III veut conquérir le marché britannique avec le vin français. Mais quand on envoie du vin en Angleterre, il n'est pas bon. Les Anglais ne sont pas contents. Alors, en 1863, Napoléon III demande à Pasteur de travailler sur le vin. Louis Pasteur part travailler à Arbois l'été 1863. Il transforme le café du village en laboratoire. Sur les tables, on ne voit pas des verres, mais des ballons de laboratoire remplis de vin. Pasteur pose des questions à ses amis vignerons et commence ses expériences. Il étudie et compare les vins de la région. Un jour, il a une idée pour éliminer les germes qui abîment le vin. « Que faites-vous ? » lui demande un assistant. « Je fais chauffer du vin très peu de temps à moyenne température, sans contact avec l'air, dans un ballon de laboratoire. 1 minute à 55 degrés environ. Et qu'arrive-t-il ? Regardez le résultat. Les germes meurent. « C'est formidable !» dit l'assistant. « Vous sauvez le vin !» Les vignerons peuvent exporter le vin. Pasteur, lui, publie en 1866 son étude sur les vins et la dédie à Napoléon III. On appelle cette technique la pasteurisation, En 1865, Pasteur publie un brevet pour l'invention d'un procédé de conservation et d'amélioration des vins par chauffage modéré à l'abri de l'air, la pasteurisation. Cette technique révolutionnaire permet peu à peu la conservation de beaucoup d'autres choses, le lait, le jus de fruits, le beurre. Pasteur, ce jour-là, fait une grande découverte. Elle complète l'invention du français Nicolas Appert, l'inventeur de la boîte de conserve en 1795. Peu à peu, cette technique améliore la vie et la santé des gens. Ainsi, les femmes qui font chauffer le lait au bain-marie, puis le refroidissent avant de le donner à leurs enfants, voient que leurs enfants sont moins malades. Pasteur peut être fier de lui.